Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité Alexandra Bensour, il est ancien élève de l'école normale supérieure d'Ulm. Il est agrégé de philosophie, il enseigne en CPGE économique et commercial au lycée Saint-Jean de Douai, en lettres supérieures au lycée Sainte-Marie de Neuilly. Il est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Apprendre à philosopher avec les philosophes et la Bible » et c'est un livre qui est paru aux éditions Ellipse. Alexandra Bensour, bonjour.
Bonjour, Jean-Bitton, comment allez-vous ?
Ça va, je vous remercie. Donc Alexandra Bensour, grâce à ce petit livre, on découvre que la Bible a beaucoup passionné les philosophes, et pas seulement les philosophes juifs. Donc peut-être le premier qui s'y est intéressé, peut-être qu'il y en a eu avant lui, c'est un certain Augustin, c'est ça ?
Alors, Augustin a la particularité, lui, d'être... un écrivain vraiment religieux, donc c'est un peu une exception dans ma liste d'auteurs, hein, parce que les autres auteurs sont
Maïmonide aussi est religieux.
Oui, c'est vrai, mais disons qu'il est, il a vraiment une interprétation directement inspirée par la philosophie d'Aristote. Donc j'ai commencé par Augustin essentiellement parce que c'est historiquement, la première grande interprétation de la Bible, très, très structurée. Hein, voilà. Donc c'est surtout pour cette raison-là.
Et est-ce que vous pensez justement que le personnage, enfin le philosophe Augustin, a pu influencer les philosophes comme Maïmonide, Spinoza, Kant, Nietzsche, Freud, enfin, voire les modernes hein, comme Ricoeur et Lévinas? Vous pensez que sa philosophie a pu inspirer ces philosophes?
Pour les noms que vous citez, eux sont surtout influencés par les auteurs grecs, paradoxalement. Hein, c'est le cas de Maïmonide, hein, c'est son originalité, ce qui est assez frappant quand on le lit. Il ne connaît pas forcément d'ailleurs l'œuvre d'Augustin, d'abord parce qu'il n'est peut-être pas très, très féru de littérature chrétienne, mais c'est surtout parce que à l'époque où Maïmonide écrit, donc au XIIe siècle, la grande référence philosophique, c'est Aristote. Et c'est le cas pour beaucoup d'auteurs que vous avez cités, mais disons que cette influence, elle va durer jusqu'à la fin du Moyen-Âge, essentiellement. Et ensuite, quand on arrive au XVIIe siècle, par exemple, hein, vous citiez Spinoza, là, les références philosophiques deviennent très complexes, hein, et Spinoza lui-même est un lecteur de Maïmonide. Donc, sa lecture de la Bible est à la fois inspirée par Maïmonide, mais repose aussi sur une critique assez féroce de la méthode d'interprétation de Maïmonide.
Qu'est-ce que Spinoza reproche à Maïmonide ?
Ben, il lui reproche de plaquer sur le texte biblique des notions abstraites, hein, des notions philosophiques abstraites, essentiellement donc issues d'Aristote, et de ne pas prêter assez attention à la lettre du texte biblique lui-même, ce qui peut paraître étrange parce que Maïmonide est évidemment un immense connaisseur de la Torah et donc il a commenté lui-même évidemment, mais c'est là qu'il faut distinguer, hein. C'est-à-dire chez Maïmonide il y a le juriste et le commentateur de la Torah proprement dit, et puis il y a l'auteur du livre qui m'a surtout intéressé pour mon ouvrage, qui est le guide des égarés, ou des perplexes, hein, suivant les traductions, où là, il essaye de montrer que on peut connaître la Bible et comprendre sa profondeur que si on la lit à travers une vision philosophique, essentiellement une vision aristotélicienne. Alors c'est à la fois évidemment complètement anachronique, et puis ça conduit Maïmonide à lire certains passages de la Bible d'une manière en effet très, qui nous paraît aujourd'hui très étrange, c'est-à-dire très, très forcée, où il voit des théories rationnelles, par exemple, sur la physique, hein, ou la métaphysique, directement dans certains psaumes ou certains passages d'Ézéchiel. Bon, alors ça, pour Spinoza, c'est tout à fait insupportable, parce que Spinoza, lui, se réclame d'une autre forme de rationalité qui consiste à séparer beaucoup plus radicalement l'interprétation de la Bible d'un côté et la philosophie de l'autre.
Alors finalement, quelle est la réflexion que nous propose Spinoza concernant la Bible? Parce qu'il aborde quand même la Bible sous l'angle philosophique, hein, pas sous l'angle théologique.
Alors, il l'aborde sous un angle qui est à la fois philosophique et historique, hein, puisque il dit lui-même que si on veut comprendre la Bible, il faut faire un travail vraiment sur le texte, sur le contexte. Hein, d'ailleurs, il fait partie aussi de l'histoire de l'exégèse scientifique, au sens où c'est un des premiers à avoir donné des arguments pour montrer que Moïse ne pouvait pas être l'auteur des 5 premiers livres, enfin, etc. Mais alors, pour en venir plus précisément à votre question, pour Spinoza, la Bible contient des vérités morales essentielles, hein, l'amour du prochain, c'en est une, évidemment, mais elle transmet ces vérités fondamentales d'une manière imagée et s'adresse donc ce qu'il appelle lui des ignorants, hein, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui tout simplement aux hommes du commun, enfin, c'est-à-dire à peu près tout le monde, à part quelques rares grands métaphysiciens comme lui-même, qui eux sont capables de comprendre les vérités directement par la raison, sans avoir besoin de passer par un texte comme la Bible, fait de toutes sortes d'images, qui raconte toutes sortes d'histoires, etc. Donc il sépare vraiment très nettement la portée, ce qu'on peut appeler sociale et politique de la Bible, hein, c'est-à-dire finalement conduire les hommes à l'obéissance, hein, pour reprendre sa formule, et puis la philosophie qui, elle, produit des vérités par la démonstration pure. Voilà. Donc c'est cette séparation qui est très caractéristique de Spinoza.
Alors Alexandre Abensour, peut-être que ce qui sépare Maïmonide de Spinoza, c'est que Maïmonide devait sans doute croire en la révélation, ce qui n'est pas le cas de Spinoza.
Alors, oui, bien sûr, hein, Spinoza lui-même était exclu de sa communauté d'Amsterdam, parce que, alors on ne sait pas exactement pourquoi, hein, pour quelle thèse, mais clairement, dès sa jeunesse, il devait professer des thèses qui étaient incompatibles avec la foi au sens propre. Donc bien sûr, c'est pour ça que Maïmonide, c'est à la fois un philosophe, mais on le classe aussi dans les auteurs religieux, hein, au sens propre du terme, hein, vous avez raison, hein, il croit en la révélation, mais en même temps, il a une façon de voir dans la révélation, hein, pour Maïmonide, hein, des vérités qui sont des vérités que nous on considérait comme étant totalement extérieures, hein, à la Bible. Hein, comme par exemple des vérités concernant l'ordre du monde, l'éternité du monde, des questions comme ça. Mais pour le reste, oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Pour Spinoza, le philosophe n'a pas besoin de la révélation pour atteindre la vérité, et notamment la vérité sur Dieu, hein, puisqu'il y a bien un Dieu dans le système de Spinoza, hein, dans sa philosophie, mais c'est pas le Dieu de la Bible.
Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que Spinoza veut dire quand il explique que Dieu c'est la nature?
Alors bon, ça c'est évidemment la thèse qui a été la plus controversée, qu'on retient le plus. La façon un peu de dire les choses le plus simplement possible, c'est de dire que Dieu n'est pas donc séparé du réel, c'est pas un être qui aurait créé le réel. Hein, partir de rien, par exemple, en tout cas le réel n'est pas la création de Dieu, mais le réel c'est l'ordre même le réel est rationnel, hein, le réel c'est l'enchaînement de causes rationnelles, et Dieu lui-même n'est rien d'autre que cette rationalité d'une certaine manière. Simplement, disons, ce qui est un peu dangereux quand on résume Spinoza à cette identité, hein, Dieu c'est la nature, c'est que nous, les hommes, hein, ce que nous percevons de la nature, c'est une toute petite partie pour Spinoza. Hein. Le Dieu spinoziste est infiniment plus riche que ce que nous percevons de la nature. Et donc c'est à la fois une thèse qui existe, hein, dans une lettre, il dit je dis Dieu ou bien la nature, hein, c'est vrai, mais qui est un peu dangereuse aussi parce que elle donne l'impression que il suffit de connaître la nature, notamment la nature physique par exemple, hein, ou de faire de la science par exemple, pour connaître Dieu. Ce qui est inexact, hein. Dieu est encore une fois infiniment plus riche que tout ce que notre connaissance humaine peut en connaître.
Alors, Alexandre Bensour, après il va y avoir justement les philosophes des Lumières, hein, c'est de Bayle à Kant, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce que ces philosophes vont apporter de nouveau concernant la Bible?
Oui, ce qui est très frappant à l'époque des Lumières, c'est que il y a évidemment une bataille à l'époque contre la religion. Et en même temps, il y a une défense de la part de certains philosophes, non pas forcément de la religion, mais de la Bible comme d'un texte qui est susceptible finalement d'être intéressant du point de vue de la philosophie, à condition d'être bien lu. Hein. C'est-à-dire, là encore, si on sait lire la Bible, on va y trouver un certain nombre de vérités morales. Hein. Les Lumières, finalement, s'intéressent essentiellement à la question morale dans la Bible. On retrouve les questions classiques, hein, si je puis dire, les notions de justice, les notions d'amour du prochain. Mais les philosophes des Lumières ne vont cesser de mettre en garde contre une utilisation qui serait abusive ou irrationnelle de la Bible. Donc ils essayent de montrer qu'il y a bien quelque chose de rationnel, ou en tout cas d'utile ou de vrai dans la Bible, mais qui n'est pas évident au premier regard. Ce qui fait que finalement il y a aussi une méfiance à l'égard de tout l'usage de la Bible par les églises, hein, pour dire les choses très clairement. Hein. Quelle que soit cette église d'ailleurs, hein, que ce soit les diverses églises protestantes, que ce soit l'église catholique, que ce soit le judaïsme. Donc il y a vraiment cette idée de dire oui, la Bible peut finalement faire l'objet d'une lecture philosophique, mais on sait aussi qu'elle peut être très facilement détournée, hein, pour servir les passions de toutes sortes d'églises. Voilà, c'est un peu ce qui réunit ces philosophes au XVIIIe siècle.
Finalement, la Bible déchaîne les passions quelque part, hein, parce qu'on peut la comprendre sous des angles différents, si je comprends bien.
Oui, c'est une des choses qui m'a intéressé, c'est montrer que finalement, c'est pas parce que c'est un texte évidemment religieux que les philosophes vont s'en désintéresser, et au contraire, hein, les lieux de bataille d'interprétation entre les philosophes. Un exemple assez classique, c'est justement l'opposition entre les philosophes qui veulent à tout prix ce qu'on pourrait appeler rationaliser la Bible, hein, trouver en elle ce qu'elle a de rationnel, hein, et puis ceux qui au contraire ne cessent d'insister sur le fait qu'elle elle dépasse la raison, hein, et que si on veut, et quand on la réduit à quelques messages entre guillemets rationnel, ou en tout cas d'une morale simple, eh bien finalement on passe à côté de sa richesse. Ça peut être aussi bien des philosophes chrétiens comme Kierkegaard, mais je pense que finalement il y a aussi quelque chose de cela chez Lévinas, hein, lui s'appuyant sur la tradition juive, mais pas seulement, hein, puisqu'il connaît évidemment très bien aussi tous ces débats chez les philosophes chrétiens. Se méfie beaucoup, hein, de toute lecture rationalisante et insiste beaucoup sur la dimension de transcendance qui est essentielle dans la Bible. Voilà. Donc ça, Alexandre... c'est un des lieux de dispute. Oui, je suis un peu long.
Alexandre Abensour, alors il faudra encore parler de Nietzsche, de Freud, de Ricœur, de Lévinas. Malheureusement, nous sommes au terme de cet entretien. Donc je voudrais rappeler quand même que vous êtes agrégé de philosophie et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Apprendre à philosopher avec les philosophes et la Bible ». Et c'est un livre qui est paru aux éditions Ellipse. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Alexandre Abensour, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.